Bonjour, bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 février. Ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission autour de l'actualité en Mayenne. Et oui, et nous sommes deux évidemment à animer cette émission avec toi Andy. Salut Andy, comment ça va ?
Salut Marie, ça va très bien et toi ?
Ça va aussi évidemment, merci. Et on va parler aujourd'hui, si tu le veux bien, en même temps c'est le menu, donc j'espère qu'il te convient. On va parler des trois établissements de santé labellisés hôpitaux de proximité par l'Agence régionale de santé dans le département. On va voir concrètement ce que ça peut changer pour eux. Et puis on va aussi faire un zoom sur le troisième polar d'Agathe Portail, qui est d'origine mayonnaise et qui revient samedi justement sur ses terres d'origine à Laval, en l'occurrence pour le dédicacer. Ce troisième polar, peut-être l'avez-vous déjà vu ou peut-être même lu, il s'appelle De la même veine. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité avec cette nouvelle étape dans la levée des restrictions sanitaires.
À partir d'aujourd'hui, après plus de deux mois de fermeture, les discothèques peuvent rouvrir, les concerts debout peuvent aussi reprendre et on pourra à nouveau consommer debout dans les bars, stades, cinéma et transports. La prochaine étape, c'est le 28 février qui prévoit la fin du port du masque en intérieur dans les lieux soumis au pass vaccinal, sauf dans les transports.
Et les chiffres de l'épidémie, eux, continuent de baisser dans la région.
Avec un taux d'incidence à 1397 en Mayenne, soit presque 4 fois moins qu'il y a 2 semaines, la pression à l'hôpital met un peu plus de temps à diminuer. 71% personnes sont hospitalisées à cause de la Covid-19 dans le département.
Et désormais, Andy, il sera plus facile de lister ses cas contacts.
Grâce à un nouveau service en ligne mis en place par la CPAM, il permet à toute personne testée positive au Covid-19 de lister ses cas contacts en identifiant sa période de contagiosité, ce qui permettra aussi d'avoir plus facilement un arrêt de travail. Il suffit de se connecter sur amélie.fr dans la rubrique « Lister ses cas contacts ».
Et toujours pour parler de liste, mais cette fois-ci de liste électorale.
D'après un sondage IFOP en décembre dernier, 59% de la tranche d'âge des 18-30 ans avouaient qu'ils ne voteraient pas au premier tour. Afin de réduire ce nombre, la ville de Laval a lancé hier une campagne pour interpeller la jeunesse. Ils se sont servis d'un mème, qui est une image plus ou moins connue, reprise avec une description humoristique. Vous avez jusqu'au 2 mars pour vous inscrire sur Internet et jusqu'au 4 en mairie.
Deux jeunes filles agressées par un homme à Laval.
Les faits se sont produits samedi dernier, un peu avant minuit, dans le centre-ville. Un homme d'une quarantaine d'années, très alcoolisé, suit deux adolescentes dans la rue et les agresse verbalement, avant de rentrer au domicile de la grand-mère de l'une d'entre elles, où elle s'était réfugiée. Placé en garde à vue, l'homme sera jugé le 11 mars pour violation de domicile et violence volontaire.
Jérôme Bress a été nommé directeur des affaires publiques chez Lactalis.
Il sera chargé du pilotage des affaires publiques du groupe en France, de sa coordination européenne et internationale et représentera le groupe dans certaines instances institutionnelles françaises et européennes. Diplômé de l'ISC Paris en affaires internationales, il a travaillé d'abord au sein du groupe des fédérations industrielles puis de l'Association nationale des industries alimentaires et dans l'organisation France Industrie.
Et puis on en parlait en tout début de cette émission, 3 hôpitaux mayennais labellisés « hôpitaux de proximité ».
Et oui Marie, les 3 hôpitaux concernés sont l'hôpital local du sud-ouest mayennais qui s'appuie sur 2 sites situés à Cran et Renazé, celui dernier et enfin celui d'Evron. Valérie Jouette, directrice territoriale de l'ARS en Mayenne, nous parle des objectifs de la mise en place de cette labellisation.
L'objectif de la labellisation des hôpitaux de proximité, donc c'est une démarche qui permet de renforcer le rôle de l'hôpital de proximité dans son territoire. Donc la loi confie aux hôpitaux de proximité deux grands types de missions. Donc, d'une part, l'objectif et la mission de contribuer avec des coopérations avec les structures et professionnels de médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent, comme je disais, une responsabilité territoriale. Et donc ça, dans un environnement plus large de communautés professionnelles territoriales de santé. L'idée, c'est que l'hôpital de proximité soit vraiment le pivot sur son territoire et puis puisse offrir un certain nombre de prestations à la population du territoire concerné.
Une labellisation qui est très encadrée avec plusieurs conditions à respecter pour l'obtenir. Kevin Poissel, responsable du département parcours du DTARS, évoque ces plusieurs clauses pour qu'un hôpital puisse être labellisé.
Bon, la première condition, évidemment, c'est de répondre aux besoins de santé du territoire, ce qui sous-entend que cette démarche part d'un diagnostic partagé avec l'ensemble des acteurs, aussi bien les acteurs de la ville que du médico-social, afin d'étayer une offre plus large ou plus spécialisée donc en réponse aux besoins de santé de la population. La deuxième condition, ce sont des activités cliniques obligatoires. donc la médecine tout d'abord, des consultations de spécialité complémentaires à l'offre libérale disponible et l'accès à des plateaux techniques. En gros, à part l'obstétrique et la chirurgie, un hôpital de proximité peut être détenteur de toute autre autorisation de soins répondant aux besoins du territoire. La troisième condition, donc, ce sont des missions partagées avec les acteurs du territoire. Et c'est là où on retrouve l'articulation avec les CPTS et plus largement avec les professionnels de santé de ville, tous les dispositifs de prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité, toutes les actions de prévention et également donc, la contribution à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge. Donc, en contrepartie de ces engagements, l'hôpital de proximité va bénéficier de financements dérogatoires permettant à la fois de sécuriser leur activité hospitalière, mais aussi de soutenir leur mission élargie. Concernant l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, dans le cadre de la contractualisation et d'aide à la contractualisation dans le cadre du CEPOM, un montant de 75 000 euros ont été attribués à chaque établissement fin 2021, ainsi que en 2020, donc des aides en investissement à hauteur de 62 354 euros pour la Mayenne.
Un projet qui devrait renforcer le maillage territorial et le travail coordonné des équipes de santé en Mayenne.
Merci Andy pour ce reportage, en tout cas cette interview en visio pour préciser ce dispositif d'hôpitaux de proximité. Et on va parler ensuite Polar, attention, Polar qui se passe dans le sud-ouest mais avec beaucoup de clins d'œil à la Mayenne, ce sera juste après Marie-Flore avec Tout ou Rien.
Tu sens bon. Mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin. Je m'allume une blonde. Tout s'éteint dans tes yeux bleus clins. De toute façon, sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi 2 secondes. Sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi 2 secondes. 2 secondes.
Tout rien, c'est fait.
Julien, Marie-Flore dans la JT du local sur l'autre radio. Et on va parler polar comme promis juste avant cette pause musicale avec le troisième roman publié par Agathe Portail, originaire de Jublin, qui sera à la librairie Emnir à Laval ce samedi pour dédicacer ce troisième roman. Elle vit depuis quelques années dans le sud-ouest mais se décrit comme une mayennaise forcenée et elle revient régulièrement dans le département. Samedi, ce sera donc l'occasion de présenter son troisième polar de la même veine, mais aussi d'évoquer son métier d'autrice qu'elle exerce à 100% désormais.
Je suis Agathe Portail, auteure de romans policiers aux éditions Calmann-Lévy. Je suis mayonnaise dans l'âme et depuis toujours, et j'ai 4 enfants. Aujourd'hui, nous vivons dans le sud-ouest pour des raisons professionnelles.
Et donc, effectivement, vous serez en dédicace ce samedi à la librairie Emnir à Laval pour votre troisième livre intitulé « De la même veine ». Alors là aussi, c'est un polar comme les deux précédents. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu quelques mots, nous plonger dans l'histoire que vous nous avez racontée ?
Le polar de la même veine est le troisième opus d'une trilogie que j'ai créée qui se déroule dans le sud-ouest, qui fait intervenir des personnages d'enquêteurs récurrents, le major d'Ambérail, major de gendarmerie et sa tante Daphné, qui est toujours un petit peu la mouche du coche dans ses enquêtes, vont se trouver dans cette histoire confrontés à une disparition et à un meurtre sordide, puisque une bénévole est retrouvée dévorée dans le chenil dont elle s'occupait. Et en fait, toute cette histoire qui se déroule de nos jours permet de se plonger dans le métier de la tonnellerie, qui est un savoir-faire à la fois ancestral et très contemporain, et de s'immerger dans des histoires de famille, puisque la disparition a lieu lors d'un dîner d'affaires au sein de la tonnellerie qui est dirigée par la famille Opras.
Ce choix justement de mettre en avant un métier qui est pas ou peu connu, ou en tout cas plus, qu'on ne connaît plus aujourd'hui, c'était aussi une volonté dans cette histoire. Est-ce que vous vous êtes renseigné justement par rapport à ce métier-là ?
Alors dans les trois romans que j'ai écrits, je pars toujours d'un métier qui a à voir avec la ruralité. J'écris des polars qui sont volontairement situés dans des zones rurales parce que c'est une coloration, un paysage que j'aime et puis tout un tissu social et des problématiques qui me semblent passionnantes et inspirantes. Pour cette le dernier opus de la même veine, j'avais la chance d'avoir dans mes contacts quelqu'un qui reprend une tonnellerie familiale et qui m'a fait la gentillesse de me faire visiter sa tonnellerie pendant plusieurs heures, ce qui m'a permis de me familiariser avec le vocabulaire, avec les odeurs, les lumières, les profils qu'on y croise. Ça a été vraiment une expérience passionnante qui m'a donné un coup de pouce pour démarrer l'écriture de ce dernier roman.
Puisque dans les premiers en fait romans, dans le premier et le deuxième, je crois qu'il y a et le milieu viticole et le milieu apicole, c'est ça ?
Oui, dans le premier, je me suis appuyée sur une expérience professionnelle dans le monde de la viticulture, en effet, aux côtés des viticulteurs. Et pour le deuxième, il est vrai que je parle d'apiculture. C'est peut-être moins au centre de l'intrigue, mais on se retrouve en effet dans un rucher et le meurtre est commis par des abeilles. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il y a vraiment des liens très étroits entre les savoir-faire et l'intrigue.
Effectivement, c'est votre troisième roman qui vient de paraître. Le premier est paru il y a 2 ans maintenant. À quel moment est-ce que vous avez eu le déclic de déjà d'écrire et ensuite de faire paraître et de consacrer quand même une grande partie de votre temps, j'imagine, maintenant à cette écriture ?
J'écris depuis vraiment très très longtemps. Je suis quelqu'un d'assez coincé du point de vue émotionnel et du coup, l'écriture a toujours fait partie de ma vie pour mettre de l'ordre dans ma tête et dans mes émotions. Et finalement, l'écriture de fiction est intervenue à plusieurs reprises dans mon parcours. J'ai fait une école de commerce et j'écrivais des petites nouvelles, etc. Et puis un jour, mon mari m'a fait un grand cadeau. Il est parti une semaine en vacances avec nos enfants et je me suis retrouvée une semaine à la maison avec ce désir d'écrire un roman. Je me suis dit, faut démarrer maintenant. Voilà, donc ça a été vraiment une fenêtre ouverte qui m'a permis de me lancer. Et finalement, le plus difficile, c'était peut-être d'aller jusqu'au bout. Et j'ai réussi, avec le soutien de ma famille, à aller jusqu'au bout de ce premier roman.
Au début, est-ce que ça a été facile de trouver un éditeur et de pouvoir ensuite espérer voilà, retrouver le livre dans les rayons des librairies ?
J'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que j'ai envoyé mon roman à plusieurs éditeurs que j'avais sélectionnés en fonction de ce que moi, j'avais envie. Voilà. Et au bout de 3 semaines, j'ai reçu le coup de fil de Kalman qui me proposait de retravailler avec moi ce premier texte et dans l'objectif d'une parution. Je suis passée par la boîte mail, le manuscrit @kalman-levy.fr. Je donne le bon tuyau. Ça existe vraiment. Je pense que j'ai eu de la chance aussi d'envoyer un texte au bon moment. Mais aujourd'hui, bien sûr que c'est une relation de collaboration qui s'inscrit dans la durée. Et c'est à Kalman que je fais lire tous mes textes en premier.
J'ai lu dans diverses interviews qu'il y a à chaque fois, il y avait ce petit clin d'œil à la Mayenne qu'on pouvait retrouver dans vos romans. Là, sur le troisième, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce qu'il y a des choses qui vont parler aux lecteurs mayennais à la lecture ?
En premier lieu, le village dans lequel se déroule l'intrigue s'appelle Mayennac. Donc, c'est un clin d'œil assez appuyé. Après, je pense que c'est plutôt un esprit dans lequel les Mayennais peuvent se reconnaître, dans la mesure où finalement on a à peu près les mêmes. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes paysages, mais je pense qu'il y a un esprit rural et agricole qui est très commun en fait à la petite ville au petit village que j'ai imaginé dans le sud-ouest et à la Mayenne. Et puis je fais exprès de citer des fleurs qui poussent aussi bien dans les fossés du sud-ouest que dans les fossés mayennais. La seule chose qui manque dans le sud-ouest, c'est les primes verts. Donc je suis très frustrée, mais je me sers de toutes les autres fleurs possibles.
Par définition, c'est le troisième tome de la trilogie. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets pour la suite ?
Oui, j'ai un projet qui est à l'étude en ce moment chez Kalman, qui sort complètement de ce que j'ai pu produire pour ces 3 premiers romans. Voilà, j'ai dans mon tiroir un roman qui n'est pas encore abouti, qui se déroule en Mayenne, que peut-être un jour je pourrais proposer au lecteur mayennais, mais qui a encore besoin de mûrir un peu.
Donc pas forcément un polar cette fois-ci, alors que pourtant, là, pour l'instant, c'est le genre que vous affectionnez en tout cas. L'envie de faire autre chose ou pourquoi en fait avoir cette envie de changer ou peut-être l'inverse déjà, pourquoi être parti sur des polars à la base ?
Alors déjà, je commence par répondre à votre première question. Pourquoi changer ? Pour expérimenter, pour se mettre en danger aussi, pour voir, explorer si j'ai la capacité d'aller dans divers registres. Et puis pour nourrir aussi la pratique de l'écriture qui ne se pratique pas du tout de la même manière selon qu'on écrit du polar ou de la littérature blanche ou du roman d'aventure. Ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes intellectuels de construction de l'intrigue, et c'est ça que je trouve passionnant. Donc voilà, je réponds à votre première question. Et la deuxième question, pourquoi du polar ? Eh bien, je pense que je me suis lancée dans le polar pour 2 raisons. La première, c'est que je suis quelqu'un d'assez torturé et que j'aime bien pouvoir ourdir de sombres machinations contre des personnages exécrables que j'ai créés exprès pour les tuer dans d'atroces souffrances. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, c'est que l'écriture de polar, c'est quelque chose qui est très architecturé, qui est très balisé. On sait d'avance qu'il va y avoir un mort, une enquête, des suspects, des fausses pistes et la résolution d'une intrigue. Et c'est quelque chose d'assez rassurant, finalement. En tout cas, ça l'était pour moi au moment où j'ai dû choisir de me lancer dans l'écriture, de me dire, voilà, je partais avec d'entrée de jeu un fil conducteur qui posait des balises sur le chemin de l'écriture.
En tant que lectrice, est-ce que c'est vraiment un genre que vous affectionnez particulièrement ?
Je lis du polar, bien sûr, et puis c'est tellement vaste aujourd'hui la production de polar et la qualité qu'on trouve dans le polar que c'est merveilleux. Il y en a pour tous les goûts, il y a de l'humoristique, il y a du polar romantique, il paraît, je ne savais pas. Il y a du gore, il y a du polar mystique, il y a du polar complotiste, il y a du polar scientifique. Du polar social, c'est extrêmement vaste, donc je trouve qu'on y retrouve de nombreuses qualités d'écriture et d'auteur, etc. J'aime beaucoup la littérature générale aussi. Je pourrais citer plein d'auteurs que j'adore, et je pense que l'une de mes stars absolues, c'est Sandrine Collette, qui écrit du noir sans que ce soit du polar, avec des qualités littéraires de très très grandes auteurs, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
d'avoir des inspirations comme ça. Est-ce que parfois, c'est pas difficile de pas être trop dans la copie non plus?
Moi, il y a une seule chose qui va m'influencer, c'est quand je lis de la littérature au moment où je suis dans l'écriture, parce que quand on écrit un roman, on n'écrit pas pendant 100% du temps, hein. Y a beaucoup de temps qui est passé à réfléchir. Mais quand je suis dans l'écriture, j'évite de lire du Maëlys de Kerangal, parce que sinon je fais des phrases extrêmement longues. Et j'adore Maëlys de Kerangal, mais je pense que elle m'influence énormément, donc j'évite de la lire en écrivant.
Tous les livres sont parus à un an d'intervalle, mais après, ça, c'est la date de parution. Mais ça vous prend combien de temps au total d'écrire un livre?
Alors, ça dépend du projet, parce que là, en l'occurrence, pour la trilogie, j'ai vraiment mis un an à écrire chaque livre, avec 2 mois pour faire émerger l'histoire. Ensuite, souvent, il y avait au moins 1 mois de recherche. Et ensuite, 5 mois d'écriture et 2 mois de relecture et de retravail avec l'accompagnement de mon éditeur. Donc, ça couvre à peu près l'année complète. En revanche, pour écrire un roman qui ne soit pas du polar, j'ai un autre exemple, du coup, avec le travail en cours qui est à l'étude chez Kalman Levy. J'ai mis plus d'un an parce que j'ai fait 4 mois de recherche, par exemple. C'était vraiment sur des thématiques et des problématiques très techniques qui m'étaient complètement étrangères. Et l'histoire a mis beaucoup plus de temps à émerger aussi. Je savais que je voulais parler de ce territoire-là, de cette problématique, mais j'avais pas forcément l'histoire. Donc, on est assez tributaire, en fait, de la manière dont vont s'articuler les recherches, l'histoire, les personnages. Et pour ce roman-là, j'ai presque mis un an et demi.
Mais cette notion, en tout cas, à chaque fois, d'écrire une histoire qui est vraisemblable avec des recherches, on voit même pour vous parler du vocabulaire technique de la tonnellerie, c'est important pour vous de ne pas faire quelque chose qui est, ça pourrait être un choix aussi, déconnecté et pas forcément fidèle à la réalité.
Je détesterais faire quelque chose dont un professionnel pourrait le lire et dire c'est n'importe quoi. Ça me semble inconcevable. Pourtant, je dis pas c'est mon devoir d'auteur de, mais c'est juste que je serais extrêmement mal à l'aise de proposer au lecteur quelque chose dont je sais que c'est n'importe quoi, en fait. Et j'ai un côté hyper scolaire, je pense, qui m'empêche de penser que ma créativité peut pallier tous les à peu près par ailleurs. Pour toutes ces enquêtes, en tout cas, il y a toujours eu un lieutenant-colonel de gendarmerie qui a tout relu. Et quand je fais des à peu près ou des erreurs, je sais, notamment pour ce troisième roman, mon lieutenant-colonel m'a dit « ça manque de magistrat ton histoire quand même ». Et ben, je savais vraiment pas comment mettre plus de magistrature dans mon histoire et donc je n'en ai pas rajouté. Mais je sais que si je voulais être entièrement crédible, il aurait fallu plus de magistrat.
Les personnages que vous aviez dans cette trilogie, est-ce que vous pensez les garder, on va dire, avec vous et on pourra les retrouver dans d'autres histoires ou bon, pour l'instant, vous savez pas?
Pour le moment, j'ai pas de projet défini. J'aimerais justement beaucoup, si je réécris un prochain polar, mettre la lumière sur le travail du procureur. Je trouve un métier qui est passionnant et qui est sur le terrain. Mais pourquoi pas réutiliser Géraldine Amblevert, qui est mon personnage d'adjudante-chef et qui, à la fin de ce troisième opus, prend une nouvelle orientation de carrière. Ça me permettrait, voilà, de conserver ce lien un petit peu familial que j'ai avec mes personnages, tout en évitant le grand écueil de la série, à savoir de faire l'épisode de trop avec les personnages qui ont en fait déjà vécu tout ce qu'ils avaient à vivre. En l'occurrence, mon major et sa tante sont allés au bout de la résolution de leur vie intérieure. Et je vois pas comment les faire revivre. Ou alors, il faudrait que je leur recrée des difficultés. Mais aujourd'hui, pour moi, ils sont allés vraiment au bout d'une forme de cycle. Voilà, j'ai pas envie de les ressortir juste parce que ça m'évite d'inventer de nouveaux personnages.
On ne les retrouvera donc sans doute pas dans son prochain livre, qu'Agathe Portail espère publier l'année prochaine, en 2023. La dédicace est prévue chez Emnir à Laval, donc ce samedi de 16h à 18h.
Et on va passer à la pause musicale avec
Catfish, Sorrow
de Catfish.
C'est ça, on est bien d'accord, on écoute ça tout de suite.
Stuck taste your cup of sorrow. It's a little bit sour. She had long thought and shot. Start once again, cause they scream forever. We don't want you to go insane, that it's a matter of hours. We gotta wash a cup of sorrow, but it's a little bit sour.
Et c'était bien Catfish avec Sour Sorrow dans l'agité du local. Et cette fois-ci, ça y est, on ne se marche pas sur les pieds. Andy, ce serait dommage quand même, puisque ça y est, c'est déjà la fin de notre émission l'agité du local pour aujourd'hui, mercredi. Salut Andy, tu seras là demain avec nous ?
Oui, salut Marie, à demain.
On se retrouve demain, évidemment, à 12h15, comme d'habitude. Mais avant, restez avec nous, évidemment, puisque les émissions, elles, se poursuivent à l'antenne. À 19h, il y aura Novorama. Ce sera suivi à 21h de Chaosphère, avec ce soir un voyage d'une heure en Orient, à la découverte de groupes venus du Bahreïn, d'Afghanistan, d'Irak, de Turquie. Puis ensuite, l'autre heure, la deuxième heure, une immersion dans le métal extrême. Nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.